7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Raphaël Constant.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment vivre dans une société de valides quand on est porteur de handicap? En Europe, 87 millions de citoyens souffrent d'un handicap, première source de discrimination en France. Les personnes invalides subissent bien souvent les normes de nos sociétés pensées par et pour les valides. Aller à l'école, travailler, se loger, tomber amoureux, se déplacer, élever des enfants, toutes les activités qui font de nous des êtres sociaux ne sont pas si accessibles quand on est invalide. Alors comment les personnes handicapées peuvent faire de leurs identités des outils de lutte, des sources de fierté pour s'émanciper? C'est votre combat. Charlotte Puise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'autrice du livre De chair et de fer, Vivre et lutter dans une société validiste, paru aux éditions La Découverte. Vous êtes psychologue, docteur en philosophie et militante, et vous êtes née avec une maladie génétique rare, un handicap que vous racontez dans cet essai autobiographique, et vous travaillez sur les questions de validisme, d'antiféminisme et d'antiparentalité. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Charlot-Yves Tchakounté, membre de l'association des personnes handicapées dynamiques du Cameroun, et membre du réseau de blogueurs francophones Mondoblog porté par RFI. Et en fin d'émission, un reportage de Charlie Dupiot en région parisienne à la découverte de Give, une application anti-gaspillage basée sur le don d'objets et de nourriture.
7 milliards de voisins.
On est tout proche.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Et des réactions de voisins, de voisines sur nos réseaux sociaux, je vous en cite une. C'est Faouziatou qui est à Abidjan en Côte d'Ivoire qui nous dit « J'ai perdu ma jambe droite dans un accident de circulation. Je me rends compte avec mon handicap qu'il y a beaucoup de lieux qui ne sont pas accessibles. Les bus ne sont pas toujours équipés de rampes, les immeubles d'ascenseurs, c'est un combat chaque jour. » Charlotte Puiseux, avant de vous raconter, je voudrais citer les premières lignes de votre livre. Vous dites, vous écrivez « Aujourd'hui, je veux écrire sur ce que j'ai vécu, mais en rattachant mon expérience à une histoire collective. Je veux écrire sur le handicap, mais en rejetant les éternels poncifs qui saturent les discussions autour de ce sujet. Je ne veux absolument pas me présenter comme l'héroïne d'une histoire de résilience et de dépassement de soi, issue d'un imaginaire validiste. Et je ne veux pas contribuer aux discours ambiants qui font du handicap une tragédie personnelle. » Alors pourquoi ce livre ?
Oui, alors pour moi, c'était vraiment important de me rattacher à une histoire collective, comme je l'ai dit au début de l'extrait que vous avez cité. Parce que déjà, à la base, je ne voulais pas parler de moi spécifiquement. Mon premier but, c'était de publier mes travaux de recherche parce que je travaille sur les questions de validisme, d'antiféminisme, comme vous l'avez dit, d'antiparentalité, sur le mouvement CRIP aussi, qui est un mouvement de personnes handi, LGBTIQA+, queer, quoi. Je voulais vraiment parler de tout ça, de tout ce que j'avais fait pendant ma thèse, des recherches que j'avais menées. Mais c'est vrai qu'en discutant avec ma maison d'édition, que j'ai eu du mal à trouver au passage, parce que c'était un sujet qui ne passionnait pas les maisons d'édition, hein, faut être honnête. Donc j'ai eu la chance d'avoir une opportunité à la découverte. Du coup, en discutant avec la maison d'édition, on s'est dit que ça serait plus pertinent aussi, plus accessible, justement aussi à un plus large public, pas seulement à des personnes handicapées, quoi, aussi à s'adresser à des personnes qui ne sont pas concernées par cette question. Du coup, ça parlerait plus à ces gens-là, que je puisse illustrer mes recherches par mon parcours personnel. Donc, ça a été un peu compliqué au début pour moi, l'idée de me raconter. Comme je l'ai dit dans l'extrait, l'idée, c'était vraiment pas de me présenter comme une super-héroïne qui a réussi à faire telle ou telle super chose, mais vraiment d'utiliser mon parcours comme un exemple du validisme quotidien que les personnes handicapées peuvent vraiment vivre au quotidien. Et du coup, je pense que justement, une des choses importantes dans le système validiste aussi, c'est qu'il nous isole, c'est-à-dire qu'il nous fait croire en fait que nos vécus sont particuliers, spéciaux, que du coup, ce qui nous arrive un peu, c'est un peu dû à notre corps différent, dû à nous, enfin à notre individu. Et justement, en écrivant ce livre, moi, mon but, c'était d'expliquer que c'était l'inverse, qu'en fait, c'était des histoires très communes à beaucoup de personnes handicapées, pour ne pas dire toutes. Bon, j'aurais pas la prétention de dire toutes, mais mais je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que du coup, en fait, c'est vraiment un système qui nous opprime, qui crée une hiérarchie.
Alors justement, vous parlez d'un système d'oppression plutôt que de handicap. Vous parlez de ce système de notre société contre les personnes handicapées, ce qu'on appelle le validisme. Vous, quel sens vous donnez au mot et à l'identité valide ?
Bah, l'identité valide, elle est construite socialement déjà. C'est comme la notion d'handicapé, enfin l'identité handicapée. C'est des identités qui fonctionnent actuellement en opposition. Mon grand regret, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est que je pense qu'on aurait beaucoup à gagner en les pensant différemment. Mais en tout cas, dans la société validiste actuelle en France, en tout cas, on oppose ces deux identités qui sont construites socialement, donc comme je disais, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout naturelles. Voilà, pour reprendre une phrase bien connue de Simone de Beauvoir qui dit « on ne naît pas femme, on le devient », on peut aussi appliquer cette phrase « on ne naît pas handicapé, on le devient ». Alors bien sûr, il y a des phénomènes, il y a des facteurs corporels qu'il ne s'agit pas de complètement nier, comme a pu le faire certaines mouvances de mouvements militants handis qui ont été jusqu'à dire que le handicap était uniquement social. Je ne pense pas, et je ne suis pas la seule à le penser. Il y a quand même une assise corporelle qu'on ne peut pas nier. Mais c'est très, très, très loin d'être le seul facteur d'handicap. Et justement, là, pour le coup, en prenant le contre-pied de ce qu'on a appelé le mouvement médical, le modèle médical du handicap, qui, là, pour le coup, ne définissait le handicap que par le corps, l'individu, bien non, en fait, le handicap, il est aussi en grande partie construit socialement. On nous met en situation de handicap par des choix sociaux, politiques, par des prises de décision qui font que la société n'est pas adaptée aux personnes handicapées et que du coup, elles se retrouvent en situation de handicap.
Et c'est ce que vous expliquez dans votre livre, comment nos sociétés construisent ces identités et comment on peut les déconstruire. Je vous cite « Écrire sur le validisme, c'est contribuer à renverser les normes, à affirmer la valeur de nos vies, la beauté de nos corps déformés et la force de nos faibles esprits. C'est renverser les stigmates pour en faire des sources de fierté. C'est faire couler de l'encre au lieu de notre sang. »
Oui, j'aime beaucoup le concept, un peu philosophique, hein, c'est quand même ma passion, la philosophie, de renversement du stigmate, mais au-delà d'un concept philosophique, je pense que moi, c'est vraiment quelque chose qui fait résonance en moi, et je pense que ça m'a beaucoup aidé, et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes, voilà, cette idée de se réapproprier nos corps, nos histoires, ce qui font de nous des êtres humains et qui ont de la valeur, parce qu'on grandit dans une société où on nous dévalorise beaucoup, on nous fait souvent comprendre qu'on n'est pas à notre place, qu'on n'a pas à être là, et que du coup, renverser le stigmate, c'est vraiment se réapproprier qui on est.
Alors, quelle est votre histoire, Charlotte Puise ?
Mon histoire, moi, je suis née en 1986. Donc il y a déjà un petit moment, ça a déjà quand même pas mal évolué depuis l'époque où je suis née, je suis née et j'ai grandi à Paris, dans le sud de Paris, le 13e arrondissement pour citer plus précisément. J'ai eu la chance, l'immense chance de naître dans une famille très soudée et qui m'a portée, hein, parce que comme je le dis souvent, si je suis là aujourd'hui, il y a un peu de moi, mais il n'y a pas que moi. C'est aussi toutes les personnes qui, depuis que je suis née, m'ont porté, mes parents, mes grands-parents, aujourd'hui mes cousins, qui m'aident au quotidien, mon compagnon, après mes amis aussi, les amis de mes parents, qui ont pu aussi les aider quand j'étais petite. Donc c'est vraiment, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes très soutenantes, d'aller dans les écoles de mon quartier, parce que mes parents ont toujours refusé de m'envoyer dans ces institutions spécialisées dans lesquelles les médecins leur avaient pourtant dit que c'était la meilleure solution pour moi, comme malheureusement c'est encore beaucoup de cas aujourd'hui, sous couvert que ces institutions seraient là où on comprend mieux les besoins des personnes handicapées, alors que c'est totalement faux. Hein. C'est des institutions qui sont contraires aux droits humains, comme le rappelle l'ONU et comme l'ONU a condamné la France pour le maintien de ses institutions spécialisées. Donc c'est pas du tout le cas. Ça correspond pas du tout à nos besoins. Donc heureusement, mes parents n'ont pas écouté ces médecins. Donc oui, j'ai été allée dans les écoles de mon quartier. Ça n'a pas été toujours facile, loin de là.
Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que vous êtes née avec une maladie dont on parlait peu à l'époque.
Oui, tout à fait. C'est une amyotrophie spinale, donc c'est une maladie génétique. Voilà, j'étais la première personne handicapée dans ma famille, donc c'était vraiment quelque chose que mes parents, ma famille, ne connaissaient absolument pas. Oui, dans les années 80, on n'en parlait pas. Moi, je suis née quelques mois avant le premier Téléthon. Donc voilà, après le Téléthon, même si je suis très critique aujourd'hui, on en reparlera peut-être plus tard, mais ça a eu l'avantage de médiatiser cette maladie quelques mois après l'annonce faite à mes parents, et ce qui a permis à mes parents de comprendre un petit peu ce qui se passait.
Et dans votre livre, vous racontez, avec plusieurs séquences, que vous avez fait l'expérience de ce refus de la société de vous donner une place dès l'école, justement.
Bah oui, parce que bon, nous, on avait la chance d'habiter à Paris, donc on a une offre scolaire quand même importante. Donc c'est vrai que du coup, le refus d'une école ne me condamnait pas à faire plusieurs dizaines de kilomètres pour en trouver une autre. Mais oui, ma première école où j'étais censée aller n'était pas accessible, donc j'avais été refusée. Donc bon, du coup, j'étais dans une autre. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'était aussi des négociations. Voilà, pour avoir du matériel adapté, il n'y avait pas d'auxiliaire de vie scolaire à l'époque, mais j'avais quand même besoin d'aide. Hein. Donc c'était soit mes camarades de classe qui m'aidaient, bon, ce qui est quand même compliqué à 6, 8, 10 ans de demander à ses camarades de sortir ses cahiers, de sortir ses crayons, etc. Enfin, c'est pas leur rôle du tout, quoi. Donc voilà, puis j'avais besoin d'aide aussi le midi à la cantine, donc ils avaient fait venir une femme de ménage en fait de l'école qui prenait ça en plus de son travail. Enfin voilà, c'était beaucoup de bricolage et du coup c'était très compliqué parce que ça nous mettait tout le temps en situation de demande en fait d'être dépendant du bon vouloir de l'école, parce qu'en fait, à cette époque, il n'y avait aucune obligation d'intégrer les élèves handicapés. Donc, c'était vraiment au bon vouloir des enseignants et du personnel éducatif.
Et cette phrase, d'ailleurs, lancée par une conseillère d'orientation quand vos bonnes notes vous permettaient d'envisager une classe préparatoire, « Le monde est fait pour les hommes, et déjà, vous êtes une femme, il est fait pour les valides, et vous êtes handicapée. »
Oui, bah, là, c'était vraiment... d'un côté, je me dis, elle n'avait pas tort, dans le sens où... la société est sexiste et la société est validiste, hein, mais est-ce que du coup on doit s'y plier? Est-ce que je dois me résigner à rester chez moi parce que je suis une femme handicapée? Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette conclusion, mais voilà, c'est quand on rencontre des personnes comme ça qui vous poussent à rester chez vous et à dire que vous ne pourrez rien faire de votre vie. C'est pas très épanouissant et très bon pour la confiance en soi.
Alors, à côté du rejet explicite, l'autre écueil que vous avez rencontré, c'est dans l'approche caritative. Vous avez commencé à en parler et l'approche compassionnelle, comme vous dites, du handicap. À 5 ans, vos parents vous ont fait participer au Téléthon. Vous étiez même le visage de l'affiche à ce moment-là. Comment vous avez vécu cet événement à l'époque, alors qu'aujourd'hui, effectivement, on peut lire que vous êtes très, très critique vis-à-vis de l'événement?
Bah après, il y a vraiment un décalage temporel, c'est-à-dire qu'à l'époque où ça s'est passé, je ne mesurais pas du tout les enjeux en fait, de ce que c'était que le Téléthon, de discours qui étaient véhiculés. Donc pour moi, c'était un jeu plus qu'autre chose. Je passais à la télé, c'était rigolo. Donc il y avait ce côté très, très, très jeu.
Et sortir de l'invisibilité, vous expliquez aussi.
C'est ce que j'allais dire. C'est que, et pour moi, il y avait un côté où... la chose qu'on me reprochait toute l'année dans mon quotidien, par la société, à savoir être handicapé, tout d'un coup, ça devenait quelque chose que les gens, auquel les gens s'intéressaient, que je devais mettre en avant. D'un côté, il y avait quand même, cette joie à pouvoir dire, je suis handicapé, et c'est pas mal. Mais au final, après, avec le recul, et je le sentais déjà à l'époque, comme je l'ai dit, c'est qu'au final, à chaque fois que je voyais les productions, quand je faisais par exemple des articles de journaux ou des clips pour le Téléthon, que je faisais des choses pour le Téléthon, quand je voyais les résultats, en fait, je me disais non, c'est pas ça que je voulais. Je me sentais pas à l'aise avec le résultat sorti. Donc je sentais déjà à l'époque quelque chose qui n'allait pas, mais j'arrivais pas, bien sûr, à comprendre ce que c'était et à mettre des mots dessus, comme je peux le faire aujourd'hui.
Alors, dans votre livre, vous parlez du désir de compter dans l'espace public et vous insistez notamment sur une notion fondamentale, c'est la mobilité. Dans la rue, à l'école, dans les transports, en voyage à l'étranger. Et vous racontez un véritable manque de considération du système des valides pour vous permettre d'avoir accès à cette liberté fondamentale qu'est se déplacer.
Bah oui, c'est que bon, moi je suis en fauteuil roulant, donc c'est vrai que après l'accessibilité des lieux publics, c'est, je pense, un combat des personnes handicapées, un des prioritaires. Enfin, en plus, ça a été mis à mal en 2015 suite au report du volet accessibilité, du coup, de la loi de 2005 française, qui est le pilier de la politique du handicap en France. Donc ça a vraiment, enfin, en 2015, quand le gouvernement a décidé que finalement tous les établissements recevant du public n'avaient pas à être accessibles, ça a été vraiment un choc. Ça a fait naître d'ailleurs des collectifs antivalidistes à cette époque. Ça a été vraiment un tournant aussi dans les luttes antivalidistes. Mais du coup, oui, pour moi, l'accessibilité, c'est la base. Pouvoir sortir de chez soi. Pouvoir avoir un chez soi et pas se retrouver en institution spécialisée. Ensuite, pouvoir sortir de chez soi, pouvoir bouger, pouvoir aller voir ses amis, ses amoureuses, aller travailler si on en a envie, aller à l'école. Enfin, c'est vraiment la base qui fait qu'on pourra trouver notre place dans la société. Et je trouve que malheureusement, voilà, c'est encore loin d'être compris par les politiques. Et quand on voit, donc il y a eu ce report. Et puis, comme je l'ai dit dans le livre, cette phrase qui m'avait choquée de la RATP qui m'avait dit, quand j'avais écrit une lettre pour protester contre les pannes récurrentes d'ascenseurs de la ligne 14, qui était une ligne neuve, qui était censée être le fleuron de l'accessibilité de la RATP, qui marchait jamais, les ascenseurs, vraiment jamais. Enfin, j'ai eu des péripéties, voilà. Et on m'avait juste répondu en m'envoyant un petit prospectus où c'était écrit justement « Se déplacer est une liberté fondamentale ». Ok.
Alors justement, comment vous avez trouvé, vous, votre place dans la société ?
Bah, je pense que par des rencontres, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est ça qui a changé mon parcours, ma vie, qui a fait que j'ai pu trouver la force de militer d'abord. Enfin, déjà, oui, de faire des études, militer. C'est vraiment rencontrer les bonnes personnes. C'est vraiment ce qui a changé ma vie. Comme je pense dans le livre, c'est une partie de mon histoire. Je dis les personnes qui ont compté beaucoup dans mon parcours militante, qui m'ont menée à théoriser ce que je vivais au quotidien, cette oppression que je théorisais pas comme ça au début, justement parce que comme la plupart des personnes handicapées, je pensais que c'était à cause de moi que j'étais rejetée parce que mon corps était différent, parce que j'étais en fauteuil, parce que voilà, je pouvais pas me déplacer. Donc en fait, le validisme, c'est ça, c'est il rejette la faute sur les personnes handicapées. Et donc du coup, militer, rencontrer des personnes et discuter avec elles, ça m'a permis de comprendre que c'était pas ça la réalité en fait.
Alors quand on vous lit, on comprend que votre prise de conscience politique a été libératrice. Alors justement, comment s'est construit cet engagement, cette réflexion ?
Bah déjà, encore une fois par une rencontre. C'était, mon engagement politique à proprement parler, il a commencé en classe préparatoire avec la rencontre de ma meilleure amie, enfin qui n'était pas ma meilleure amie à l'époque, mais du coup je l'ai rencontrée en classe préparatoire. Et elle était déjà engagée politiquement sur d'autres questions, hein, pas du tout sur des questions de handicap et de validisme. Donc elle était plus sur les questions antiracistes et islamophobes, le combat contre l'islamophobie. C'est ce que je dis, c'est qu'a priori on n'avait rien en commun, enfin, sur nos préoccupations militantes et politiques, enfin, on n'avait rien en commun. Et pourtant, c'est la première personne avec qui j'ai senti une connexion, justement, dans cette analyse de la situation, dans le fait qu'on devait se réunir, lutter ensemble, faire des luttes collectives, et que surtout, on n'était pas responsable de ce qui nous arrivait, que c'était une société oppressive qui nous mettait dans ces situations. Et donc, en fait, elle avait déjà un parcours... elle était déjà engagée depuis quelque temps dans ce qu'on appelait la LCR à l'époque, la Ligue communiste révolutionnaire. Donc j'ai commencé à la côtoyer les réunions, etc. Ensuite, le NPA s'est créé donc, sur...
Le nouveau parti anticapitaliste.
Sur l'initiative de la LCR. Donc c'est à ce moment-là que je me suis vraiment engagée politiquement et toujours voilà, sur la question du validisme, parce qu'à l'époque, il y avait une commission handicap au sein du NPA. Donc ça a été mon premier... le premier biais par lequel je suis rentrée au NPA, ça a été la commission handicap. Bon, après, voilà, c'était un peu compliqué parce qu'elle avait du mal à fonctionner. Donc ensuite, j'ai aussi rejoint la commission féministe. Enfin, voilà, après, c'est mon parcours.
Alors justement, cet engagement, la façon dont vous définissez comme anticapitaliste et anti-féministe, vous en parlez dans le livre comme un système en fait, d'hyper-production qui exclut les personnes qui n'ont du coup pas les aptitudes pour s'y conformer.
Oui, parce que voilà, moi, ce qui m'intéressait aussi, bien sûr, dans cet engagement politique, c'était de ne pas non plus me centrer uniquement sur les questions antivalidistes, parce que je trouve que, justement, ça s'inscrit dans une société. Et pour le coup, l'anticapitalisme me parlait beaucoup. Et justement, on y développait des idées où on expliquait comment le capitalisme... Ben, en fait, excluait les corps handicapés par une promotion de l'hyperproductivité, de l'hyperrentabilité, de la flexibilité. Et du coup, ben, les corps handicapés étaient d'emblée jugés comme non valables, non utilisables par le capitalisme, donc à exclure. Mais aussi, comment le capitalisme rend les corps handicapés ? Parce qu'il y a des corps qui sont valides, enfin plutôt valides, on va dire, et qui, à force du travail tel qu'il est promis dans la société capitaliste, deviennent handicapés. Donc en fait, je me disais, bah, oui, l'anticapitalisme aide les luttes antivalidistes, mais les luttes antivalidistes sont aussi un formidable point d'entrée pour lutter contre le capitalisme.
Les voisins, les voisines, vous pouvez réagir à tout moment sur notre page Facebook ou notre numéro WhatsApp. C'est le 33 7 64 45 51 41. On poursuit cet échange sur le validisme et la lutte pour les droits des personnes handicapées dans un instant. Mais d'abord, c'est Sini de Vesco sur RFI.
Faramu
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, vivre et lutter dans une société validiste, on en parle en votre compagnie. Charlotte Puiseux, psychologue, militante et docteur en philosophie, et vous signez le livre De chair et de fer. Vous êtes notamment engagée auprès du collectif Les Dévalideuses, qui est un collectif, je cite, féministe, qui démonte les idées reçues sur le handicap. Et vous conseillez les femmes handicapées sur leur désir de maternité. Vous, vous êtes même maman. Racontez-nous ce parcours et votre travail auprès des femmes.
Oui, alors du coup, pour les dévalideuses, en fait, c'est vrai que j'avais pris un peu de recul avec le milieu militant, notamment le NPA, parce que malheureusement, dans le NPA, comme ailleurs, beaucoup de validisme. Donc, comme je l'explique dans le livre, j'ai été aussi un peu déçue à des milieux anticapitalistes sur la question de la prise en compte du validisme. Donc, j'avais un petit peu... Je m'étais mise un peu en retrait du monde militant. Après, je faisais ma thèse, ce qui pour moi était aussi un acte militant. Donc c'était une autre façon de militer. Mais c'est vrai qu'en fin 2019, est né le collectif Les Dévalideuses sur Internet. Hein. C'est un collectif uniquement en ligne. On ne s'est jamais rencontrés pour la plupart d'entre nous dans la vraie vie. mais donc, on milite en ligne. Et c'est vrai que pour moi, c'était aussi... plus facile parce que j'avais quitté Paris entre-temps, donc aussi en termes de mobilité, comme on parlait tout à l'heure, c'était pas évident. Donc c'est un collectif qui se présentait comme féministe, qui était des questions qui avaient aussi beaucoup rejoint mes préoccupations ces dernières années. J'avais vraiment envie de lier les luttes antivalidistes et les luttes féministes. Donc quand j'ai vu le collectif Les Dévalideuses naître, je me suis dit oui, c'est ça quoi, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc je les ai rejoints très vite. Après on fonctionne en fonction de nos possibilités, hein. C'est pas toujours évident, surtout qu'il y a eu le Covid par la suite, etc. Donc on essaye de mettre en avant ces questions, cette double oppression, de faire beaucoup de pédagogie aussi. On a fait les bonnes résolutions anti-validistes, qui sont des petites fiches avec une phrase très courte, qui est, comment dire, des phrases qui résument vraiment brièvement certains principes anti-validistes et qui, du coup, sont utilisées pour faire de la pédagogie, pour expliquer aux personnes valides ce que c'est que le validisme. Donc voilà, et puis en effet, je milite aussi à l'association Handi Parentalité. C'est via cette association que je conseille, que quand je peux, quand des personnes me sollicitent, dans ma région notamment, des parents, futurs parents, et notamment des futures mamans en situation de handicap dans leur projet de parentalité.
Parce que ce qui est compliqué, c'est quoi ? Le matériel adapté ? Être accompagné au domicile aussi, peut-être ?
Tout est compliqué, de toute façon. Trouver des médecins pour suivre la grossesse, c'est pas évident. Après, ça dépend du type de handicap des personnes. Mais moi, en l'occurrence, mon handicap dû à ma maladie génétique faisait que j'étais ce qu'on appelle... J'avais une grossesse à très haut risque, comme on appelle ça. Donc, ça veut dire que je peux pas être suivie dans n'importe quel hôpital, enfin maternité. Après, il faut trouver les bons spécialistes. C'est pas évident, il y en a très peu déjà. Et puis, il faut bien s'entendre avec eux, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas toujours forcément la même façon de vivre la grossesse, nous en tant que future maman et eux en tant que médecin. Donc, c'est très compliqué déjà de trouver des bons accompagnantes. Ensuite, une fois que le bébé est là, de trouver du matériel adapté, c'est très, très compliqué parce que la périculture généraliste n'a pas du tout de matériel adapté, donc c'est beaucoup de bricolage.
Tout de suite, on prend la direction du Cameroun.
RFI à Douala, 97.8 FM.
On accueille Charlot-Yves Tchakounté de Douala. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Raphaël.
Vous êtes membre de l'Association des personnes handicapées dynamiques du Cameroun et membre de la plateforme de blogueurs francophones Mondoblog. On peut d'ailleurs vous lire à l'adresse matango.mondoblog.org. Charlot-Yves, vous venez d'une famille de 9 enfants. Aujourd'hui, vous avez 43 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre handicap ?
Oui, ça a commencé à l'âge de 3 ans. Ma famille avait trouvé nécessaire Il m'a mené à Yaoundé, au centre de réhabilitation des personnes handicapées de Toukébé à Yaoundé, 3 ans. Et je suis retourné à Douala parce que ma famille n'avait plus d'argent pour financer ma rééducation. Puis, on a trouvé que je devais d'abord m'adapter à mon nouvel environnement. Et puis, bon, 1 an après, je suis retourné à l'école.
Charles-Louis, comment vous avez vécu votre handicap plus jeune? Parce qu'il me semble que vous nous avez expliqué, quand on a préparé cette émission, que quand vous avez été diagnostiqué de la polio, votre famille vous avait d'abord emmené voir un tradipraticien.
Oui, justement, à Yaoundé, on a consulté un praticien. Pour ça, en Afrique, la mythologie dit toujours que les personnes ont été victimes par un mauvais sort. C'est la raison pour laquelle ma famille a trop tardé pour consulter un médecin. Et finalement, c'est mon papa qui a pris la décision de m'amener dans un centre de réhabilitation des personnes handicapées situé à Yaoundé.
Et comment est perçu le handicap dans la société au Cameroun?
Comme quelque chose de mystique, ça c'était avant. Et aujourd'hui, ça a un peu changé parce que les mentalités ont aussi changé. Avant, on attribuait ça à du mysticisme, à la sorcellerie, à la diabolisation, ainsi de suite. C'est pour ça que les personnes handicapées n'étaient pas vues comme des êtres humains.
Alors, dans cette émission, on parle de handicap, des sociétés valides. Est-ce que cette réalité est prise en compte dans l'environnement au Cameroun?
Par rapport à la vie quotidienne, à l'université, par exemple, l'université de Douala est constituée de plusieurs campus. Les campus sont séparés entre eux par de longues distances. Les cours sont répartis dans plusieurs campus. Et d'un coup à l'autre, on est obligé de se déplacer. Pour la personne handicapée, ce n'est pas du tout évident. Il faut un moyen de transport assez adéquat, ce qui n'existe pas. Chaque handicapé doit se débrouiller. Et c'est comme ça que j'ai évolué jusqu'à la fin de mon cursus. J'ai été aidé particulièrement par les camarades qui étaient compréhensifs pour accéder aux bâtiments, des escaliers. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de pavé pour faire circuler les fauteuils roulants.
Et vous, dans votre vie de tous les jours, comment vous pouvez vous déplacer dans les rues qui sont souvent en mauvais état au Cameroun, à Douala?
Oui, généralement, les handicapés ont des tricycles plus adaptés à nos routes, mais les fauteuils roulants, pas du tout. Pour ceux qui ont des fauteuils roulants, empruntent généralement des taxis. Moi, par exemple, je n'ai pas de fauteuil roulant, je n'ai pas de tricycle, j'utilise mes béquilles pour me déplacer. C'est ainsi que d'un endroit à un autre, j'emprunte un taxi et à destination, je suis obligé de descendre pour emprunter une autre moto et ça me fait généralement double dépense.
Charles-Louis, en préparant cette émission, je vous ai demandé de choisir un de vos articles de blog et de vous enregistrer. On écoute.
Le handicap est une situation difficile à vivre. Parfois, je pense avoir réussi à me dominer, à surmonter mon complexe, qu'une situation réussit toujours à me rendre malheureux. Je me suis toujours interrogé sur les raisons du manque d'informations sur la situation du handicap. Pourquoi les autres, surtout les enfants et quelquefois les grandes personnes, voient en la personne handicapée un être bizarre, un être différent? La perception des autres sur ma situation de handicap a toujours été une préoccupation personnelle. La réponse à cette préoccupation est pourtant tout simple, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ont grandi dans l'ignorance. Personne en situation de handicap, j'ai toujours été confronté aux questions du genre « Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? As-tu eu un accident? Étais-tu malade ?» Mais ce qui m'étonne justement, c'est que ces questions ne viennent pas des adultes, mais des enfants. Je dis bien des enfants, même pas des adolescents, mais des enfants, des tout petits, j'insiste. Oui, les enfants sont trop curieux. Il y en a qui, pour la première fois qu'ils voient une personne marcher à l'aide d'une canne ou d'une béquille, ils prennent peur et fuient. Ce sont surtout les enfants de moins de 2 ans. Par contre, il y en a qui me regardent longuement, me fixent sans dire mot. Il y en a parmi eux les plus courageux, qui s'approchent quand même et me disent sans se soucier de ma réaction « Ça va, tu as mal ?» Il faut néanmoins le préciser. L'enfant qui est habitué à la présence d'une personne handicapée ne craint plus rien, ne la fuit pas. Du coup, je me pose la question de savoir comment peut-on apprendre à un enfant de moins de 2 ans qu'il ne faut pas fuir une personne handicapée. Quelle est la méthode didactique qui sied à un enfant de cet âge? La seule solution à mon sens, c'est de les mettre toujours en contact avec une personne handicapée. Mais là n'est pas mon souci. Ma préoccupation la plus importante est celle de l'ignorance des adultes. Cette situation est plus pathétique parce que c'est elle qui affecte les enfants et commande ce type de réaction que je vois chaque jour et qui me sidère. Telle est la réalité, malheureusement. Savoir que tout être humain est un potentiel handicapé n'est pas un signe de fatalité, mais plutôt un instinct de survie qui suscite des attitudes de prévention est si difficile à comprendre que ça. La diffusion de l'information aux adultes, pas seulement aux parents, la sensibilisation sur les risques de devenir un handicapé reste pour moi un sacerdoce.
Charlotte Puiseux, est-ce que vous voulez réagir à cet enregistrement ?
D'après ce que j'ai entendu, la préoccupation, c'est du coup comment éduquer les enfants et surtout les adultes. Je pense que à la question du handicap et du validisme plutôt, je dirais même. Je pense qu'évidemment, c'est important de mettre les enfants en présence d'autres enfants handicapés. Donc, d'où l'importance, par exemple, de pouvoir mettre les enfants handicapés dans des écoles dites classiques. Après, je pense aussi qu'il peut y avoir un rôle de la culture aussi, des représentations télévisuelles, cinématographiques, qui est assez problématique actuellement. Hein. On voit que les personnes handicapées sont souvent au cinéma jouées par des personnes valides. Les scénarios sont écrits par des personnes valides. Donc on retombe dans les poncifs habituels autour de la question du handicap et de la vision validiste. Donc déjà, voilà, du coup, ça aide pas à grandir dans une société où on a une bonne représentation des personnes handicapées, où les enfants peuvent du coup avoir d'autres représentations et d'autres images des personnes handicapées. Donc je pense que oui, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là.
Charlo-Yves Tchakounte, qu'est-ce que le blogging vous apporte sur ces questions de handicap et sur la façon dont vous le vivez et l'exprimez ?
Ça me lâche un peu. Ça me permet de m'exprimer, ça me permet de lire le monde comme je peux. Ça me permet de m'évader, quoi. L'intégration sociale est un peu difficile. Et la seule intégration que je peux avoir dans la vie, c'est de m'exprimer. Voilà la raison pour laquelle le blogging, pour moi, est un moyen de faire passer les messages des personnes handicapées.
Charles-Louis, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une forme d'inclusion de la part de l'administration ? De la société des personnes handicapées au Cameroun.
Les personnes handicapées sont victimes de la mauvaise volonté des autorités publiques concernant l'application de la loi sur la protection des personnes handicapées. Il n'y a pas de mesures particulières prises pour faciliter la vie des personnes handicapées.
Donc ça veut dire qu'il n'existe pas de politique publique d'inclusion des personnes handicapées ? Vous ne bénéficiez par exemple pas d'une aide sociale ?
Les aides sociales n'existent pas particulièrement. Nous avons droit à certaines décisions sporadiques qui viennent de temps en temps, mais nous voulons des décisions qui vont permettre à ce que les personnes handicapées aient accès à une aide permanente. Chaque fois, il faut que nous nous battions pour que la loi soit respectée.
Merci d'avoir été en ligne avec nous. Merci d'avoir partagé votre histoire. Je rappelle qu'on peut vous lire sur la plateforme mondoblog.org, un réseau de blogueurs porté par RFI. Et on vous souhaite une belle journée à Douala.
Merci Raphaël. Bonne journée à vous.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Charlotte Puiseux, le mot de la fin. Comment faire pour démanteler ce système validiste et pour que cette lutte, cette révolution à laquelle vous appelez devienne aussi une responsabilité collective ? Vaste programme.
Déjà, écouter les personnes concernées, je pense que c'est une première chose, quoi, pouvoir donner la place au collectif anti-validiste qui lutte sur ces questions, pouvoir leur donner la parole, que ces collectifs soient écoutés aussi dans les politiques qui sont mises en place par les gouvernements notamment. Et qu'on arrête aussi de donner la parole à des associations, par exemple gestionnaires, qui ne représentent pas en fait les intérêts des personnes handicapées. Donc voilà, qu'on puisse donner cette parole aux collectifs antivalidistes qui luttent réellement contre le validisme, qui propose d'autres solutions que ces institutions spécialisées, comme le développement pour la vie autonome, Voilà, et c'est vraiment très, très important aussi dans les médias qu'on puisse avoir la parole, qu'on puisse être écouté. Je pense que la parole des personnes concernées, c'est vraiment la première chose à prendre en compte pour savoir ensuite qu'est-ce qu'on peut faire.
Merci pour cet échange, Charlotte Puiseux, psychologue, militante et docteur en philosophie. Vous signez l'ouvrage « De chair et de fer » aux éditions La Découverte.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est 7 milliards de solutions possibles.
Communiquons le plus possible.
Plus qu'une émission, c'est devenu une famille.
Tout part d'un rêve, tout part d'un rêve.
C'est 7 milliards de cœurs qui se mettent en commun pour n'en former qu'un seul.
C'est une application sur laquelle on peut donner ou recevoir des objets ou de la nourriture. Elle s'appelle Give, comme donner en anglais. Lancée en 2017 en France, elle connaît un succès très récent, alors que les prix à la consommation ont augmenté de 6% en un an. Xavier, 39 ans, est un fervent utilisateur depuis 3 ans de cette application. Notre reporter Charlie Dupiot l'a rencontré chez lui à Herblay-sur-Seine en région parisienne. Ce matin, il a justement un don de prévu.
Oui, allô ? Ah, bah très bien, très bien. Tu as pu te garer ? Ah, bah parfait. Ah, t'as avec tes deux enfants ? Alors, dans ce cas-là, ne bouge pas, je vais te descendre ça. J'arrive. À tout de suite.
Donc là, c'est une dame qui vient chercher un don.
Des dons.
Plusieurs objets.
Plusieurs objets. Le set complet de poussette, donc avec tous les équipements, les attaches et les adaptateurs. C'est vrai que dans le cadre de ma paternité récente, il y a l'ensemble de la famille qui vous offre et les amis qui vous offrent un grand nombre d'objets. Et à la fin, ça finit par vous encombrer. Donc plutôt que de revendre, je préfère redistribuer également pour si ça peut aider quelqu'un. Bonjour.
Bonjour Xavier.
Ça va ?
Ça va et vous ?
Oui, très bien. Ça, c'est la poussette.
Ok, je vais la ranger dans mon coffre alors.
Et avec cette dernière, il y a l'adaptateur, la nacelle.
D'accord.
Et il y a également la petite baignoire.
Ok, super, parfait. C'est super gentil, merci beaucoup.
Je peux la mettre à l'intérieur.
Attendez, hop là, super. Merci beaucoup, c'est parfait.
J'amène le reste.
D'accord, super, merci beaucoup.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de recevoir une poussette.
Oui, une super poussette.
Elle coûte combien cette poussette à votre avis ?
Elle coûte à peu près dans les 300-400 euros.
Et depuis combien de temps vous êtes sur cette application alors ?
Alors, je suis sur cette application depuis un an. J'étais en congé maternité lorsque j'ai découvert cette appli et je suis vite devenue adepte en fait de cette appli. Tous les jours, je suis dessus pratiquement. J'ai des notifications, j'ai des recherches qui sont sauvegardées par rapport à mes envies, mes besoins. Et dès que j'ai quelque chose qui correspond à mes attentes, j'ai une notification.
Et là, Xavier, vous avez posté cette annonce pour la poussette quand ?
Hier. Puis je me suis pris les pieds au moins 4 ou 5 fois dedans, donc plutôt que le lancer par la fenêtre.
C'est sûr. moi je prends, je récupère par la fenêtre alors. Donc voilà, ma super poussette. Viens Doudou, viens. Qu'est-ce que j'ai pu me procurer ? J'ai eu une machine à laver, j'ai eu un frigo, j'ai eu une plaque vitrocéramique, j'ai eu des meubles que j'ai tout changé, qui étaient quasiment neufs. Voilà, même des petites choses, ça peut être des jouets de premier âge Fisher-Price, qu'une dame se servait plus, comme des couches pour enfants. Les couches coûtent énormément cher. Et il y a des gens qui donnent même des paquets de couches entamés où il reste 24, 36 couches. Et ça peut toujours être utile. Et un paquet de couches coûte en moyenne 10, 15 euros.
Et vous avez eu des dons alimentaires aussi ?
J'ai eu des dons alimentaires aussi, comme le lait en poudre pour ma fille, du premier âge, du deuxième âge et du troisième âge. En réalité, depuis que ma fille est née, je n'ai jamais acheté de lait.
Vous avez toujours eu des dons de lait ?
J'ai toujours eu des dons de lait. Ce soir, je vais récupérer un sachet de lait. Ouais, c'est vraiment des économies. Et là, j'ai beaucoup gagné aujourd'hui.
Ça marche. Bonne journée. et à toi.
Merci.
Oh, ben,
merci.
Rentre bien.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Hakim Baka, vous êtes le cofondateur de cette application Give, lancée donc en 2017 et qui propose des dons d'objets et de nourriture entre particuliers. Comment vous est venue cette idée-là ?
En fait, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où quelqu'un voulait donner une seconde vie à un objet, voilà, qu'il utilisait mais qu'il n'utilisait plus, en fait, souvent les gens se redirigent vers, mécaniquement et culturellement vers la vente. Mais la réalité, c'est que les plateformes de vente, voilà, ont un taux de succès qui est assez faible, et que nous, on a voulu proposer à la fois une solution simple, accessible, fluide, éco-responsable, locale, etc., pour toutes les ventes qui n'aboutissent pas. Et il faut savoir que c'est plus d'une vente sur deux, donc quand vous ramenez ça aux chiffres du nombre d'annonces postées sur les plateformes de vente, c'est monstrueux. Et également pour les citoyens qui ne veulent aussi pas rentrer dans un process de vente, parce qu'en fait on a constaté que beaucoup de personnes n'ont pas le temps de vendre, ne veulent pas vendre parce que c'est plus long, parce qu'il y a plus de friction, parce que forcément une transaction en argent, il y a plus de complexité autour. Donc voilà, donc aujourd'hui on a un peu ce double usage, à la fois pour les gens qui n'arrivent pas à vendre, à la fois pour les gens qui ne veulent pas vendre.
Est-ce qu'on est en train finalement de changer notre manière de consommer, de chercher à récupérer avant d'acheter par exemple ?
Mais j'irai plus loin, moi je pense qu'on est en train de revenir au basique en fait. Dans notre vie, on nous apprend d'abord à donner avant d'acheter et vendre. Donc en fait, cet usage du don, encore une fois, c'est pas une innovation en soi, c'est sa digitalisation qui est une innovation. Globalement, c'est ce qu'on ressent nous. Sur énormément de sujets, on revient à l'essentiel. On veut consommer plus local, on veut moins consommer, on veut aller moins loin, on veut moins voyager. Enfin, voilà. Et cette volonté de se dire, on va consommer de manière plus simple, peut-être plus avec plus d'humains. Voilà, c'est tout le propre de l'expérience du don. Hein. Beaucoup de gens continuent de donner parce que c'est pratique, mais aussi parce que c'est positif, parce qu'ils rencontrent des gens, parce que c'est toujours un sourire, parce que c'est une expérience qui, voilà, dans notre quotidien, des fois un petit peu difficile, un petit peu morose en ce moment, ça fait du bien. On a tous quelque chose chez nous qui nous sert à rien. En fait, le stockage, c'est du gaspillage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un objet qu'on n'utilise plus et qu'on garde, c'est du gaspillage, parce que cet objet pourrait avoir une valeur d'usage pour quelqu'un d'autre. Donc, en fait, tous ces gisements d'objets devraient être consommables. En fait, c'est un gâchis qui est monumental. Et encore, ce qui est en circulation, on n'est que sur la partie visible de l'iceberg. Hein. Le sujet à traiter est encore gigantesque.
L'application française Give compte 3,8 millions d'utilisateurs et a déjà recensé 18 millions de dons depuis son lancement. Le modèle économique repose sur la publicité et les abonnements pour ceux qui veulent accéder à des dons en exclusivité. Et les deux cofondateurs attendent une croissance de dons d'ici la fin de l'année, avec entre autres la baisse du pouvoir d'achat liée à la crise énergétique et au conflit en Ukraine. Les voisins, les voisines, notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de l'émission, à la réalisation aujourd'hui Nicolas Bé. Anita. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions en podcast sur l'application Pure Radio sur notre site rfi.fr. Dès lundi, vous retrouverez Emmanuel Bastide et nous, on se quitte avec Brighter Day de Solar Project. Bon week-end sur RFI.
De voisins, c'est fini.